Les marchandes de sable, de malices et maléfices, conte de fantômes de Jacques Cassabois. You will see this town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. L'homme qui ne voulait pas mourir. Il s'appelait Pierre et travaillait dans une ferme. Mais traire les vaches, sortir le fumier, trimer dans les champs par pluie, soleil et vent, lui convenait guère. « Je mérite mieux !» s'indignait-il en se gonflant. « J'ai du talent !» Un jour, son patron, exaspéré de l'entendre se vanter, lui lança. « Tu devrais t'engager dans l'armée. Tu verrais du pays, tu apprendras à te battre. C'est utile dans la vie. » Au fond de lui, il pensait, ils sauront bien te mettre au pas là-bas, mon gaillard, et te rabattre le caquet, c'est leur spécialité. Le fermier se trompait, car son valet, aussitôt après l'avoir quitté, se fit soldat et trouva sa voie. Porter les armes pour défendre la patrie en danger l'enchantait. Il n'avait pas froid aux yeux, il savait obéir, et très vite, il eut envie d'apprendre à commander. Pour cela, rien de plus facile à l'armée. Il suffit de monter en grade en accomplissant des exploits. Comme chaque bataille lui offrait des occasions de montrer son courage, il ne resta pas longtemps un obscur fantassin. Il fut rapidement promu caporal, puis sergent, adjudant-chef, capitaine, colonel. Il gravissait les échelons avec une aisance surprenante, et plus il montait, attiré par le sommet, plus il voulait monter. Il galvanisait ses hommes, surpassait ses adversaires, volait de victoire en victoire. Rien ne lui résistait, et pour ne rien gâter, la chance était de son côté. Le roi ne tarda pas à lui confier le commandement de son armée, et lorsque l'ennemi fut écrasé, il lui proposa le poste de premier ministre pour mieux l'aider à gouverner. Son ascension fulgurante ne fit pas que des heureux. Sa réussite fut même un poison, pour lui-même comme pour ceux qui le subissaient. En effet, il était devenu arrogant, méprisant, tel un cavalier qui n'a jamais été désarçonné, et ses subordonnés le haïrent, cherchant par tous les moyens à l'abaisser. « Il vient du ruisseau, » rappelait l'un. « Il l'a oublié. »« Du ruisseau ? Allons donc, de la fosse à Purin !» insistait un autre. « Il en exhale le parfum et ses bottes en sont encore crottées. » Pierre entendit ces insultes et fit arrêter leurs auteurs. Mais l'un d'eux, que les gardes emmenaient, lui jeta. « Prends garde, les plus belles fleurs finissent par se faner. Profite, la mort saura bientôt trouver. » La mort ? Pierre n'y avait jamais songé. Il l'avait distribué à grands coups d'épée et de mousquet au cours de ses combats, mais cela concernait les autres, pas lui. Pourquoi ce jour-ci la rencontra-t-il dans le regard de son prisonnier au point d'en être ébranlé? Il sentait sa nuque déjà raidie par le froid. Il se débattit. « Non, » murmura-t-il entre ses dents, « elle ne posera pas la main sur moi. » Et sans attendre, il prit congé du roi. « Je m'en vais, sire, voici ma démission. Débrouillez-vous sans moi. » Eh mais attendez, protesta le monarque. Où allez-vous comme ça? À la recherche du pays où l'on ne meurt pas. Il avait déjà claqué la porte et s'éloignait. Il marcha pendant des mois, mais à force de persévérance, il finit par atteindre le pays qu'il convoitait. Les habitants y étaient très âgés, preuve qu'il se trouvait au bon endroit. Pourtant, il voulut s'en assurer et demanda confirmation au premier vieillard qu'il rencontra. « La mort !» répondit celui-ci. « Ne m'en parlez pas. Jamais vu par ici depuis que le monde est monde. Nous sommes des oubliés. Je me demande bien quel mal nous avons fait pour mériter un tel supplice. » Pierre, surpris que l'on puisse parler de la mort comme d'une récompense, ne sut que répondre et regarda ce vieux s'éloigner, traînant les pieds. « Je saurais bien me maintenir en forme, moi, » se jura-t-il. Il s'installa donc dans sa nouvelle patrie, fermement décidé à organiser son éternité et prenait soin de faire chaque jour des exercices. 3 siècles passèrent ainsi, 3 étoiles filantes. Un matin, l'obscurité étrangla le soleil. Ce n'était pas la nuit, mais un oiseau dont les ailes avaient commencé d'emprisonner le ciel. Un oiseau affamé, friand de tout ce qui lui tombait sous le bec. La terre, les forêts, les rochers, les montagnes. Un dévorateur impitoyable. À peine arrivé au sol, il attaqua son repas. Des voix s'élevèrent. « C'est la fin du monde! Il va engloutir le pays! Nous allons tous disparaître !» La mort était donc un oiseau. Les hommes, malgré leur joie d'en finir avec cette vie interminable, étaient effrayés. En effet, aucun d'eux n'étant jamais décédé, ils ignoraient comment la mort survenait et c'était surtout le moment de larguer les amarres qu'ils redoutaient. Le grand départ. Certains, plus maîtres d'eux-mêmes, s'efforçaient d'apaiser les autres. « Rassurez-vous, nous sommes si vieux, nous allons enfin connaître la paix !» Cette paix n'était pas du goût de Pierre. « Je ne vais pas attendre de tomber tout cru entre les mandibules de cet emplumé » gronda-t-il. « Sauf qui peut !» Il reprit donc sa quête, interrompue par 300 ans de farniente. La chance continuait de le favoriser. Il existait en effet un second pays où l'on ne mourrait pas, et non content d'avoir déniché le premier, il dénicha aussi celui-là. C'était une île au milieu de l'océan, absolument invisible. Comment la découvrit-il alors ? C'est un mystère que le comte s'est bien gardé de nous dévoiler, pour nous laisser sans doute la liberté de chercher. Sur cette île, il mena la belle vie pendant 6 nouveaux siècles, au terme desquels il arriva frais comme un gardon. L'engagement qu'il avait pris, 900 ans auparavant, de se maintenir en bonne condition portait ses fruits. Il serait bien resté plus longtemps dans ce paradis, mais un monstre marin l'en chassa. D'une voracité extrême, il avalait la mer, les poissons et les îles qui flottaient à la surface. « Pas moyen d'être tranquille !» s'emporta Pierre, furieux de devoir déguerpir une nouvelle fois. Mais où aller ? Il avait déjà minutieusement sillonné la planète, écumé les continents, les océans. « S'il existait un troisième pays où l'on ne meurt pas, je le saurais !» s'exclama-t-il, désabusé. « Bien sûr !» Le temps que la bête parvienne jusqu'à son île et l'engloutisse, il lui restait de belles années à vivre. 100, peut-être davantage. Mais l'inéluctable pointait sa menace à l'horizon. Pour Pierre, une défaite quasiment, et il n'envisageait pas la moindre reddition. « Je préfère m'en remettre à ma bonne étoile, » décida-t-il. « Traquer la vraie vie plutôt que d'attendre la mort, les bras croisés. Banco !» Il se remit en route pour la troisième fois et marcha longtemps, bien longtemps, mais en vain. À force d'aller, la fatigue et ses chances de réussite qui s'amenuisaient finirent par user son enthousiasme. Il se laissa choir sur un talus, soudain écrasé par son âge, déçu, vaincu. Dans l'herbe, il regarda une mouche qui se débattait, prise au piège d'une toile d'araignée. « Et moi, songea-t-il, dans quelle sorte de toile suis-je empêtré ?» Sans réfléchir, il dégagea la mouche, et celle-ci, à peine libérée, se transforma en une femme radieuse, magnifique. C'était une fée, et l'araignée qu'il avait capturée, une sorcière diabolique. « Merci infiniment !» s'écria-t-elle en embrassant les mains de Pierre. « Sans ton aide, je ne me serais jamais tiré d'affaire. Comment puis-je te manifester ma reconnaissance ? Quelque chose te ferait plaisir, que je pourrais t'offrir ? Parle !» « Je voudrais vivre sans mourir, Madame la Fée, » répondit Pierre sans hésiter. La Fée hocha la tête avec gravité. « Je comprends, » approuva-t-elle. « Hélas, si tu demeures sur la terre, c'est impossible. Tôt ou tard, tu mourras forcément. Si c'est vraiment l'éternité que tu désires, il faut partir, t'élever, atteindre le ciel, et une fois là-haut, cheminer encore, à travers le labyrinthe de la Voie lactée, et enfin franchir le seuil qui permet de débarquer sur l'étoile où coule la source. Un long voyage. Je peux te conduire. Cela ne me présente pas la moindre difficulté. Mais toi, acceptes-tu un tel exil ? Je suis prêt, dit Pierre en se levant. Emmenez-moi, je vous en prie, et le plus vite que vous pourrez. Ici, je sais trop que ma vie ne tient qu'à un fil. Aussitôt, il fut enlevé dans les airs, comme une fusée, et la fée le pilota dans la grande nuit du monde, jusqu'à la destination rêvée. Une fois sur les lieux, il se sentit immédiatement à l'aise, tant il avait l'impression d'être chez lui, et il n'eut plus conscience du temps qui s'écoulait. Évidemment, puisqu'il était immortel, il en oublia même qu'il avait eu peur de mourir, et peu à peu, le silence de l'éternité aidant, il commença à s'ennuyer. « J'ai bien envie de redescendre, faire un tour, » confia-t-il un jour à la fée. Celle-ci eut une moue contrariée. « Cela ne m'étonne pas, je m'y attendais, » admit-elle. « As-tu bien réfléchi ? Prends ton temps, rien ne presse. »« T'es tout réfléchi, je suis décidée, » confirma Pierre. « comme s'il avait des fourmis dans les jambes. « J'aimerais tellement revoir ce que j'ai connu. » C'était absurde. Il était parti depuis tant d'années, mais il était impatient et n'était plus capable de raisonner. La fée ne chercha pas à le retenir. « Bien, » concéda-t-elle, « je ne peux pas t'en empêcher. C'est ton choix. » Elle fit un geste de la main et un cheval blanc à la crinière ondulante arriva au grand galop. « Chevauche cette monture, » l'expliqua-t-elle. « Elle sera ton guide partout où tu iras. » Veille seulement à ne jamais poser le pied à terre. Pas de danger, s'écria Pierre en enfourchant l'animal. Un claquement de sabots plus tard et il atterrissait sur sa planète, à l'emplacement de son ancien village. Quel choc! Il ne reconnaissait rien, bien sûr, ni personne. Les forêts avaient été rasées, les champs n'étaient plus cultivés, partout des milliers d'habitations qui montaient vers les nuées et de chemins encombrés de véhicules qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Que croyait-il vraiment? Retrouver le fermier qu'il avait employé, le roi dont il avait commandé l'armée, pour se vanter de sa réussite devant eux? Quelle réussite! Décidément, son séjour dans le ciel ne l'avait pas changé. Il revenait aussi ambitieux, aussi vaniteux qu'il était parti. À quoi sa si longue vie lui avait-elle servi? Sur son cheval, en plein milieu de la circulation urbaine, il se sentit seul et vain. Il s'éloigna de la ville et finit par déboucher dans une campagne qui lui rappelait celle qu'il avait connue. Et là, surprise, il tomba sur un véhicule de son époque, une charrette à bras, embourbée dans les fondrières du chemin, avec un pauvre homme qui jurait, comme un charretier qu'il était, en s'évertuant à la sortir de là. Voyant Pierre, il l'appela à l'aide. « Vous êtes mon sauveur, c'est le ciel qui vous envoie !» Pierre se souvint de l'avertissement de la fée. Non, non, je ne peux pas vous dépanner. » Heureusement qu'il se méfiait, car cet homme n'était autre que la mort elle-même qui avait changé d'apparence pour mieux l'abuser. Mais le faux voiturier avait plus d'un tour dans son sac. Il redoubla d'efforts, fit semblant de déraper et s'étala dans la boue, pitoyablement. Puis il se releva, peina encore sur sa roue, sans parvenir à la décoller, maladroit, et s'aplatit une seconde fois. « Ah là là, quelle misère !» se dit Pierre en le voyant s'évertuer. « Comment peut-il être aussi empoté? Allez, retire-toi de là et laisse-moi faire !» Sans réfléchir, il sauta de sa monture et aussitôt à terre, il se figea, terrifié de son étourderie. Trop tard, le mal était fait. L'embourbé se releva d'un bond, souple comme un faon, propre comme un sou neuf. Quant à la charrette, elle disparut et se changea d'un coup en une montagne de souliers. « Enfin je te tiens !» triompha la mort en abattant sa main sur l'épaule de sa proie. « Depuis le temps que je te cours après, regarde toutes les paires de chaussures que tu m'as fait user. » Pierre n'eut pas le temps de les compter. Il vit seulement le mouvement de la faux qui le cueillait. Un seul geste et il mourut.
Halloween, this is Halloween, pumpkin.